Germaine de Staël, Delphine, partie 3, lettres 12 à 17 comprises. Lettre 12. Delphine à Léonce, 30 décembre 1790. Léonce, après-demain, le premier jour de l'année qui va commencer, je vous attendrai à Bellerive. J'aime à fêter avec vous une de ces époques du temps. Elles me serviront, je l'espère, à compter les années de mon bonheur. Toutes les solennités qui signalent le cours de la vie ont du charme quand on est heureux. Mais que le retour serait amer s'il ne rappelait que des regrets. Mon ami, j'ai voulu que mes premières paroles fussent un consentement à ce que vous souhaitez. Maintenant, qu'il me soit permis de vous le dire, votre lettre m'a fait de la peine. Que de motifs vous me donnez pour le plus simple désir? Pensiez-vous qu'il m'en coûterait de quitter le monde? Ai-je un intérêt, une jouissance, un but indépendant de vous? Quelle inquiétude, quelle agitation se fait sentir, comme malgré vous, dans ce que vous m'avez écrit? J'avais reçu, peu d'heures auparavant, une lettre de ma belle-sœur qui cherchait à m'éclairer sur les périls auxquels je m'expose, et j'ai cru déjà voir, dans quelques-unes de vos plaintes détournées, le présage des malheurs dont elle me menaçait. Quoi, Léonce? Il n'y a pas un mois que, d'une séparation absolue, d'un long supplice, nous sommes passés à nous voir tous les jours, et déjà votre cœur est tourmenté et me cache peut-être ce qu'il éprouve, ce qu'il ne lui est pas permis d'avouer. À peine ai-je assez de mes pensées, de mes sentiments, pour connaître, pour goûter tout mon bonheur, et vous, vous paraissez mécontent, vous vous plaignez de votre sort. Dans ces entretiens tête-à-tête que vous désirez, vous ne cessez de me parler de vos sacrifices. Oh, Léonce, Léonce, les délices du sentiment seraient-elles épuisées pour vous? Ne me dites pas que votre cœur a plus de passion que le mien. Croyez-moi, dans notre situation, le plus heureux des deux est sûrement le plus sensible. Je veux me persuader néanmoins que c'est uniquement l'importunité du monde qui vous a déplu. Je vais vous expliquer les motifs qui m'y avaient condamné. Je savais que, pendant quelque temps, on avait dit assez de mal de moi, et je croyais utile de ramener ceux sur l'esprit desquels ces propos injustes avaient produit quelque effet. Madame d'Artenage jugeait convenable que je reparusse dans la société, et c'est par bonté qu'elle rassembla chez elle, hier, ce que l'on appelle à Paris les chefs de bande de l'opinion, afin que j'eusse l'occasion non de me justifier, je ne m'y serais pas soumise, mais de me remettre à ma place dans une réunion d'éclat. Ai-je besoin de vous le dire, Léonce? C'est pour vous que je prends soin de désarmer la calomnie. J'y serais insensible si elle ne m'arrivait pas à travers l'impression qu'elle peut vous faire. Le secret de ma conduite depuis 15 jours était peut-être le désir d'offrir à vos yeux celle que votre mère n'avait pas jugée digne de vous, entourée de considération et d'hommage. Vous me reprochez presque ma gaieté. Hélas, hier, en entrant dans le salon de Madame d'Artenas, j'éprouvais d'abord une impression de tristesse. Je revoyais le monde pour la première fois depuis la mort de Madame de Vernon, et pardonnez-le-moi, je ne puis penser à elle sans attendrissement. Cependant, je sentis la nécessité de cacher cette disposition. Si j'avais montré de la tristesse au milieu du monde, loin de l'attribuer au regret qui la causait, on aurait dit que j'étais inquiète de ce qui s'était répandu sur M. de Serbellane et moi, et j'aurais manqué le but que je m'étais proposé. Il faut fuir le monde ou ne s'y montrer que triomphante. La société de Paris est celle de toutes dont la pitié se change le plus vite en blâme. Ce fut donc par un effort que je débutais dans cette carrière de succès, que vous vous plaisiez à peindre avec amertume. Cependant, j'en conviens, je m'animais par la conversation. Je ne m'animais, faut-il vous le dire, par le plaisir de briller devant vous. Je vous sentais près de moi. Je vous regardais souvent pour deviner votre opinion. Un sourire de vous me persuadait que j'avais parlé avec grâce. Et le mouvement que cause la société quand on s'y livre était singulièrement excité par votre présence. L'émotion qu'elle me faisait éprouver m'inspirait les pensées et les paroles qui plaisaient autour de moi. Je m'adressais à vous par des allusions détournées, et dans les questions les plus générales, je ne disais pas un mot qui n'eût un rapport avec vous, un rapport que vous seul pouviez saisir et que vous aviez feint de ne pas remarquer. N'importe, vous pouvez m'en croire, celle qui ne voit que vous dans le monde doit se plaire mille fois davantage dans la retraite avec vous. Et j'aurais eu la première l'idée d'aller à Bellerive si je n'avais pas craint, en m'établissant au milieu de l'hiver à la campagne, je n'attirasse l'attention sur mes sentiments. Les habitués du monde de Paris ne conçoivent pas comment il est possible de supporter la solitude et s'acharnent à dénigrer les motifs de ceux qui prennent le parti de la retraite. Je vous en préviens, afin que si la résolution que je vais prendre nuit à ma réputation, vous y soyez préparés et que vous n'oubliez point que vous l'avez voulu. Dans les malheurs qui peuvent m'atteindre, je ne crains que ce qui pourrait blesser votre caractère. Le genre de vie que vous me proposez a mille fois plus de charme encore pour moi que pour vous. Je hais la dissimulation qui me serait commandée au milieu du monde. Je croirais respirer un air plus pur quand je ne verrais personne devant qui je doive cacher l'unique intérêt qui m'occupe. Je ne mets qu'une condition à ma condescendance, condition toujours la même, quoi qu'il puisse nous arriver. C'est que vous ne me laisserez point ignorer ce que Mathilde pourrait savoir de notre affection l'un pour l'autre, et que si jamais elle en était malheureuse, je partirais à l'instant, sans que vous me suivissiez. J'en ai votre parole. C'est cette assurance qui me permet de goûter, sans un remords trop amer, le plaisir de vous voir. Hélas, me contenter de cette promesse, ce n'est pas être trop sévère envers moi-même. Adieu, Léonce. Oui, chaque soir, vous viendrez donc à Bellerive. Ah, quelle douce espérance! Souvenez-vous, cependant, que de toutes les situations de la vie, la nôtre est la plus incertaine. Nous sommes heureux, mais nous avons tout à craindre. Mon ami, ménagez bien notre sort. Lettre 13. Léonce à Delphine, 2 janvier 1791. Unutterable happiness, which love alone bestows, and on a favorite few, bonheur inexprimable que l'amour seul peut donner et qu'il n'accorde encore qu'à un petit nombre de favorisés. Thomson. Ô Delphine, que j'avais raison de désirer ce que ton cœur m'a si généreusement accordé. Combien j'ai été plus heureux hier à Bellerive qu'à Paris, dans aucun des jours où je t'y ai vu. Je te trouvais seule, et j'avais la certitude que ce bonheur ne serait point interrompu. Cette pensée mêlait un calme délicieux à mes transports. Quel charme tu as su répandre sur les détails de la vie qui échappent au milieu du mouvement des villes. Quel soin n'as-tu pas pris de moi? La neige en route m'avait un peu saisie. Tes jolies mains furent longtemps occupées à ranimer le feu pour me réchauffer. Combien il eût été moins aimable d'appeler tes gens pour nous servir. Tu prenais aussi un plaisir extrême à me montrer les changements que tu comptais faire pour embellir ta maison. Toi que j'avais vue jusqu'alors, si indifférente pour ce genre de goût et d'occupation, il me semblait, et tu en es convenu, que le bonheur te faisait prendre intérêt à tout, et que tu te plaisais à parler des lieux que nous devions parcourir ensemble. Mon cœur n'a pas négligé la moindre observation qui put me prouver ta tendresse. J'ai remarqué jusqu'à ces arbustes couverts de fleurs nouvellement placés dans ton cabinet. Cet appartement était presque négligé quand tu le destinais à recevoir la plus brillante compagnie de la France. Tu lui as donné un air de fête pour Léonce, pour ton ami. Oh, combien je jouissais de la vivacité pleine de charme que tu mettais à me raconter les plus légères bagatelles. Une joie touchante t'animait, et la gaieté n'était point alors un jeu de ton esprit, mais un besoin de ton cœur. J'ai ri de cette sérieuse occupation du souper, toi qui n'y as songé de ta vie. Tu voulais t'assurer qu'on me donnerait ce qui pouvait me faire du bien après le froid que j'avais éprouvé. Je t'ai vu hier des agréments nouveaux que je ne te connaissais pas encore. Les soins de la vie domestique ont une grâce particulière dans les femmes. La plus ravissante de toutes, la plus remarquable par son esprit et sa beauté, ne dédaigne point ces attentions bonnes et simples qu'il est doux quelquefois de retrouver dans son intérieur. Oh, quelle femme j'aurais possédée, et j'ai pu m'unir à elle, je l'ai pu. Malheureux, qu'ai-je dit ? Non, je ne suis pas malheureux. Mais en t'aimant chaque jour davantage, chaque jour aussi cependant, mes regrets deviennent plus cruels. Enfin, apprends-moi s'il est possible à te soumettre jusqu'à mon amour. Avec quelle insistance vous avez voulu que nous fussions fidèles au projet formé, de remplir notre temps par des lectures communes. Ah, vous avez craint ces douces rêveries d'amour qui suffisaient si bien à mon cœur. Je voulais, du moins, que nous choisissions l'un de ces livres où j'aurais pu retrouver quelques peintures des sentiments qui m'animent. Mais vous vous y êtes obstinément refusé. N'importe, ma Delphine, ta voix, quoiqu'elle me lise, ne m'inspirera que l'amour. Parle en ton nom, parle au nom de Dieu même, si tu le veux. Mais que ta main soit dans la mienne et que je puisse souvent la presser sur mon cœur. Ange tutélaire de ma vie, adieu jusqu'à ce soir. Lettre 14. Delphine à Léonce. Je n'ai pas été contente de vous hier, mon cher Léonce. Je ne vous croyais pas cette indifférence pour les idées religieuses. J'ose vous en blâmer. Votre morale n'est fondée que sur l'honneur. Vous auriez été bien plus heureux si vous aviez adopté les principes simples et vrais qui, en soumettant nos actions à notre conscience, nous affranchissent de tout autre joug. Vous le savez, l'éducation que j'ai reçue, loin d'asservir mon esprit, l'a peut-être rendu trop indépendant. Il serait possible que les superstitions mêmes convinssent à la destinée des femmes. Ces êtres chancelants ont besoin de plusieurs genres d'appui, et l'amour est une sorte de crédulité qui se lie peut-être avec toutes les autres. Mais le généreux protecteur de mes premières années estimait assez mon caractère pour pouvoir développer ma raison. Et jamais il ne m'a fait admettre aucune opinion sans l'approfondir moi-même, d'après mes propres lumières. Je puis donc vous parler sur la religion que j'aime, comme sur tous les sujets que mon cœur et mon esprit ont librement examinés. Et vous ne pouvez attribuer ce que je vous dirai aux habitudes commandées, ni aux impressions irréfléchies de l'enfance. Jamais, je vous le jure, depuis que mon esprit est formé, je n'ai pu voir, sans répugnance et sans dédain, l'insouciance et la légèreté qu'on affecte dans le monde sur les idées religieuses. Quel soit l'objet de la conviction, de l'espoir ou du doute, n'importe. L'âme se prosterne devant une chance comme devant la certitude quand il s'agit de la seule grande pensée qui plane encore sur la destinée des hommes. J'étais pénétrée de ces sentiments, Léonce, avant de connaître l'amour. Ah, que ne dois-je pas éprouver maintenant que cette passion profonde remplit mon cœur d'idées sans bornes et de vœux sans fin. Je ne prétends point vous retracer les preuves de tout genre dont vous vous êtes sans doute occupé, mais dites-moi si, depuis que vous m'aimez, votre cœur ne sent rien qui lui révèle l'espérance de l'immortalité. Quand M. d'Albémare mourut, je croyais aux idées religieuses, mais sans avoir jamais eu le besoin d'y recourir. J'étais si jeune alors qu'aucun sentiment de peine ne m'avait encore atteinte. Et quand on n'a point souffert, on a bien peu réfléchi. Mais à la mort de mon bienfaiteur, je me persuadai que je n'avais point assez fait pour son bonheur, et j'en éprouvais les remords les plus cruels. Depuis que j'étais devenue son épouse, l'extrême différence de nos âges m'inspirait souvent des réflexions tristes sur mon sort. Je craignais de les avoir quelquefois exprimées avec humeur, et je me le reprochais douloureusement dès qu'il eût cessé de vivre. Rien ne peut donner l'idée du repentir qu'on éprouve quand il n'est plus possible de rien expier. Quand la mort a fermé sur vous tout espoir de réparer les torts dont on s'accuse. Cette douleur me poursuivait tellement qu'elle aurait altéré ma raison si l'excellente sœur de M. d'Albémare ne m'eût calmée en me rappelant avec une nouvelle force l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Je sentis enfin que mon généreux ami, témoin de mes regrets, les avait acceptés et que son pardon avait soulagé mon cœur. J'exécutai ses derniers ordres avec un scrupule religieux. Chaque fois que je remplissais une de ses volontés, j'éprouvais une douce consolation qui m'assurait que nos âmes communiquaient encore ensemble. Que serais-je devenu si j'avais pensé qu'il n'existait plus rien de lui? Qu'aurais-je fait de m'en repentir? Comment se serait-il adouci? Comment me serais-je consolé du moindre tort s'il avait reçu le sceau de l'éternité? Ces sentiments, ces regrets qui s'attachent aux morts, seraient-ils le seul mensonge de la nature, l'unique douleur sans objet, l'unique désir sans but, et la plus noble faculté de l'âme, le souvenir, ne serait-elle destinée qu'à troubler nos jours en nous faisant donner des regrets à la poussière dispersée que nous aurions appelée nos amis? Sans doute, cher Léonce, je ne crains point de te survivre. Jamais je n'invoquerai ta tombe. Ma vie est inséparable de la tienne. Mais si tout à coup, l'affreux système dont l'anéantissement et le terme s'emparaient de mon âme, je ne sais quel effroi se mêlerait même à mon amour. Que signifierait la tendresse profonde que je ressens pour toi, si tes qualités enchanteresses n'étaient qu'une de ces combinaisons heureuses du hasard que le temps amène et qu'il détruit? Pourrions-nous, dans l'intimité de nos âmes, rechercher nos pensées les plus secrètes pour nous les confier, quand au fond de toutes nos réflexions serait le désespoir? Un trouble extraordinaire obscurcit ma pensée quand on lui ravit tout souvenir, quand on la renferme dans cette vie. Je sens alors que tout est prêt à me manquer. Je ne crois plus à moi. Je frémis de ne plus retrouver ce que j'aime. Il me semble que ses traits pâlissent, que sa voix se perd dans les ombres dont je suis environnée. Je le vois placé sur le bord d'un abîme. Chaque instant où je lui parle me paraît comme le dernier, puisqu'il doit en arriver un qui finira tout pour jamais. Et mon âme se fatigue à craindre au lieu de jouir d'aimer. Oh, combien le sentiment se raffermit et nous élève lorsqu'on s'anime mutuellement à se confier dans l'être suprême. Ne résistez pas, Léonce, aux consolations que la religion naturelle nous présente. Il n'est pas donné à notre esprit de se convaincre sur un tel sujet par des raisonnements positifs. Mais la sensibilité nous apprend tout ce qu'il importe de savoir. Jetez un regard sur la destinée humaine. Quelques moments enchanteurs de jeunesse et d'amour, et de longues années, toujours descendantes, qui conduisent de regrets en regrets, et de terreurs en terreurs, jusqu'à cet état sombre et glacé qu'on appelle la mort. L'homme a surtout besoin d'espérance, et cependant son sort, dès qu'il a atteint 25 ans, n'est qu'une suite de jours dont la veille vaut encore mieux que le lendemain. Il se retient dans la pente, il s'attache à chaque branche pour que ses pas l'entraînent moins vite vers la vieillesse et le tombeau. Il redoute sans cesse le temps pour lequel l'imagination est faite, le seul dont elle ne peut jamais se distraire, l'avenir. Ô Léonce, et ce serait là tout, et cette âme de feu ne nous aurait été donnée que pour s'éteindre lentement dans l'agonie de l'âge? La puissance d'aimer me fait sentir en moi la source immortelle de la vie. Quoi ? Mes cendres seraient près des tiennes sans se réveiller ? Nous serions pour jamais étrangers à cette nature qui parle si vivement à notre âme ? Ce beau ciel, dont l'aspect fait naître tant de sentiments et de pensées, ces astres de la nuit et du jour, se lèveraient sur notre tombe comme ils se sont levés sur nos heures trop heureuses, sans qu'il restât rien de nous pour les admirer ? Non, Léonce, je n'ai pas moins d'horreur du néant que du crime, et la même conscience repousse loin de moi tous les deux. Mais que ferais-je de mon espérance si tu ne la partages pas? Livrerais-je mon âme à un avenir que tu n'as pas reconnu pour le tien? Quelle idée mon imagination peut-elle me donner du bonheur, si ce n'est pas avec toi que je dois en jouir? Comment entretenir ces méditations solitaires que ta voix n'encouragerait pas? Je ne puis plus rien à moi seul. J'ai besoin de t'interroger sur toutes mes pensées pour les juger, pour les admettre, pour les rattacher à mon amour. Ô Léonce, Léonce, viens croire avec moi, pour que j'espère en paix, pour que je suive ta trace brillante dans ce ciel où mes regards cherchent ta place avant d'aspirer à la mienne. Oui, Léonce, il existe un monde où les liens factices se sont brisés, où l'on n'a rien promis que d'aimer ce qu'on aime. Ne sois pas impie envers cette espérance. Le bonheur que la sensibilité nous donne, loin de distraire comme tous les autres de la reconnaissance envers le Créateur, ramène sans cesse à lui. Plus notre être se perfectionne, plus un Dieu lui devient nécessaire. Et plus les jouissances du cœur sont vives et pures, moins il nous est possible de nous résigner aux bornes de cette vie. Léonce, je vous en conjure, ne plaisantez jamais sur le besoin que j'ai d'occuper votre âme des idées religieuses. Je douterais de votre amour pour moi si je ne pouvais réussir à vous donner au moins du respect pour ces grandes questions qui ont intéressé tant d'esprits éclairés et calmer tant d'âmes souffrantes. La légèreté dans les principes conduiront bientôt à la légèreté dans les sentiments. L'art de la parole peut aisément tourner en dérision ce qu'il y a de plus sacré sur la terre. Mais les caractères passionnés repoussent ce dédain superficiel qui s'attaque à toutes les affections fortes et profondes. L'enthousiasme que l'amour nous inspire est comme un nouveau principe de vie. Quelques-uns l'ont reçu, mais il est aussi inconnu à d'autres que l'existence à venir dont tu ne veux pas t'occuper. Nous sentons ce que le vulgaire des âmes ne peut comprendre. Espérons donc aussi ce qui ne se présente encore à nous que confusément. Les pensées élevées sont aussi nécessaires à l'amour qu'à la vertu. Hélas, m'est-il permis de parler de vertu? La parfaite morale pourrait déjà, je le sais, réprouver ma conduite, et ma conscience me juge plus sévèrement que ne le feraient les opinions reçues dans le monde. Mais j'aime mieux la justice du ciel que l'indulgence des hommes. Et, quoique je n'aie pas la force de renoncer à te voir, il me semble que j'altère moins mes qualités naturelles en portant chaque jour mon repentir au pied de l'être suprême qu'en cherchant à douter de la puissance qui me condamne. Léonce, l'éducation que vous avez reçue, l'exemple et le souvenir des antiques mœurs espagnoles, les idées militaires et chevaleresques qui vous ont séduit dès votre enfance, vous semblent devoir tenir lieu des principes les plus délicats de la religion et de la morale. Tous les caractères généreux se plaisent dans les sacrifices, et vous vous êtes fait du sentiment de l'honneur, du respect presque superstitieux pour l'opinion publique, un culte auquel vous vous immoleriez avec joie. Mais si vous aviez eu des idées religieuses, vous auriez été moins sensible au blâme ou à la louange du monde. Et peut-être, hélas, la calomnie ne serait-elle pas si facilement parvenue à vous irriter et à vous convaincre. Ô mon ami, rendez au ciel un peu de ce que vous ôterez aux hommes. Vous trouverez alors dans le contentement de vous-même un asile que personne n'aura le pouvoir de troubler. Et moi-même aussi, je serai plus tranquille sur mon sort. Les idées religieuses, alors même qu'elles condamnent l'amour, n'en tarissent jamais entièrement la source. Tandis que les mensonges perfides du monde dessèchent sans retour les affections de celui qui les craint et les écoute. Vous le voyez, Léonce, en méditant avec vous sur les pensées les plus graves, je reviens sans cesse à l'intérêt qui me domine, à votre sentiment pour moi. Non, cette lettre, non, aucune action de ma vie ne peut désormais m'être comptée comme vertu. Et l'amour seul m'inspire le bien comme le mal. Adieu. Lettre 16. Réponse de Léonce à Delphine. God is thy law, thou mine. Dieu est ta loi, tu es la mienne. Milton. Ma Delphine. Je ne voulais répondre à ta lettre qu'en te revoyant. Je me serais jetée à tes genoux. Je t'aurais dit, n'es-tu pas la maîtresse absolue de mon âme ? Fais-en, si tu veux, hommage à l'être suprême. Dispose de ce qui est à toi. Adore en mon nom la providence qui se manifeste mieux sans doute à la plus parfaite de ses créatures. Moi, c'est pour toi seule que j'éprouve de l'enthousiasme. Ces pensées mélancoliques, ces idées élevées qui te font sentir le besoin de la religion, c'est vers ton image qu'elles m'entraînent. Et tu remplis entièrement pour moi ce vide de cœur qui t'a rendu l'idée d'un Dieu si nécessaire. Cependant, j'ai résolu de t'écrire avant de te parler, afin de te répondre avec un peu plus de calme. Je vais m'efforcer, non de combattre tes angéliques espérances, puissent-elles être vraies, mais de me justifier une fois des défauts dont tu m'accuses et dont tu redoutes à tort la funeste influence. Hélas, je n'ai point oublié le jour qui a versé ses poisons sur toute ma vie. Néanmoins, je ne pense pas qu'il faille en accuser mon caractère. C'est la jalousie qui m'a troublée. Sans elle, tout se serait promptement éclairci. Je mets de l'importance, il est vrai, à ma réputation, et je ne pourrais pas supporter la vie si je croyais mon nom souillé par le moindre tort envers les lois de l'honneur. Mais que peut craindre celle que j'aime de ce sentiment? Ne me donnera-t-il pas le droit, le bonheur de la défendre contre ceux qui oseraient la calomnier? On a dit souvent que les femmes devait ménager l'opinion publique avec beaucoup plus de soin que les hommes. Je ne le pense pas. Notre devoir à nous, c'est de protéger ce que nous aimons, de couvrir de notre gloire personnelle la compagne de notre vie. Si nous perdions cette gloire, rien ne pourrait nous la rendre. Mais quand même une femme serait attaquée dans l'opinion, ne pourrait-elle pas se relever en prenant le nom d'un homme honorable ? En associant son existence à la sienne et recevant sous son appui tutélaire les hommages qu'il saurait lui ramener. Les femmes ont toutes de l'enthousiasme pour la valeur. Cette qualité, dont on ne suppose pas qu'un homme puisse manquer, n'assure point assez encore sa considération si elle n'est pas jointe à un caractère imposant. Il ne suffit pas d'une bravoure intrépide pour obtenir le degré d'estime et de respect dont une âme fière a besoin. Il n'y va pas de la mort ou de la vie dans les circonstances journalières dont se compose l'ensemble de la considération. Mais lorsque l'on a, dans sa conduite habituelle, une dignité convenable, des égards scrupuleux pour toutes les opinions délicates, pour tous les préjugés même de l'honneur, le public ne se permet pas le moindre blâme et l'on conserve cette réputation intacte qui fonde véritablement l'existence d'un homme en lui donnant le droit de punir par son mépris ou de récompenser par son suffrage. Si je ne puis dérober au regard du monde votre sentiment pour moi, j'espère au moins que ma réputation vous servira d'excuse. Vous ne voudriez pas, dites-vous, que je dépendisse de l'opinion des hommes. Je n'ai jamais besoin de leur société, vous le savez. Je veux passer ma vie à vos pieds. Et c'est moi qui, plus que vous encore, chéris la solitude. Mais je me sentirais importunée par la censure de ces mêmes hommes qui, sous tout autre rapport, me sont complètement indifférents. Pourquoi cette manière de penser vous déplairait-elle ? La même ardeur de sang qui inspire les affections passionnées fait ressentir vivement la moindre offense. Les vertus fortes et guerrières qui ont illustré les chevaliers de l'ancien temps s'alliaient bien avec l'amour. Les idées religieuses ne sont pas les seules qui inspirent de l'enthousiasme. Si nos ancêtres nous ont transmis un nom respecté, le désir de les imiter est honorable. Les jouissances de la fierté remuent l'âme, tout aussi profondément que les pieuses espérances des fidèles. Et si je ne me livre pas au bonheur inconnu de te retrouver dans le ciel, je sens avec énergie que je te ferai respecter sur la terre et qu'il me serait doux d'exposer 1000 fois ma vie pour écarter de toi l'ombre du blâme ou la plus légère peine. Delphine, ne dis pas que mon caractère t'inquiète et t'afflige. Je ne sais si mon cœur s'est abusé, mais il m'a semblé que tu m'avais aimé pour les défauts mêmes que tu crains. Ne te présente-t-il pas un appui sur lequel tu te plais à te reposer? Tes qualités adorables, ta beauté, ton esprit excitent l'envie, et l'envie te crée des ennemis. Tu prends peu de soin de ces convenances de société qui en imposent aux esprits communs. Ta grâce est dans l'abandon et le naturel. Tu parles du premier mouvement, et ce premier mouvement est le vrai génie qui t'inspire. Mais ce qui fait ton charme, pour qui sait te connaître, est ton danger dans la conduite de la vie. Dis-le-moi donc, Delphine, n'était-ce pas moi, précisément moi, qu'il te fallait pour ami? Mon caractère assez contenu, assez froid en apparence, pourra servir de guide à ta bonté toujours entraînée. Tu te hasardes, je te défendrai. Tu appelles autour de toi par les mêmes causes l'admiration et la jalousie. Ton esprit devrait t'intimider, mais ta douceur et ta bienveillance rassurent trop souvent ceux qui veulent te nuire. On verra près de toi un homme irritable et fier qui ne permettra pas aux méchants du monde le double plaisir de jouir de tes agréments et de dénigrer tes qualités. Oh, si j'avais été ton époux, si j'avais acquis le droit de m'enorgueillir de mon amour aux yeux de tous, jamais la malignité n'aurait osé de s'approcher de la trace de tes pas. Et maintenant, quoi qu'il arrivât, faudrait-il dissimuler ? Le faudrait-il ? Non. J'ai reçu de ton amour le dépôt de ta gloire et de ton bonheur. C'est à moi de les conserver. Tu es convaincu que les idées religieuses sont un meilleur appui pour la morale que le culte de l'honneur et de l'opinion publique. Crois-moi, l'honneur a sa conscience, comme la religion, et rougir à ses propres yeux est une douleur plus insupportable que tous les remords causés par la crainte ou l'espérance d'une vie à venir. Le frein du sentiment qui me domine est le plus impérieux de tous. J'ai lu dans un poète anglais ces paroles que je ne puis jamais oublier. Les larmes peuvent effacer le crime, mais jamais la honte. No tears that wash out guilt can wash out shame. Prior. Le repentir absout les âmes religieuses, mais pour l'honneur, point de repentir. Quelle pensée, et combien dès l'enfance elle donne l'habitude de ne jamais céder à des mouvements de faiblesse, et de ne point repousser les avertissements les plus secrets quand la délicatesse les suggère. Si l'honneur, cependant, n'embrasse point toutes les parties de la morale, la sensibilité n'achève-t-elle pas ce qu'il laisse imparfait ? À quel devoir pourrait-il donc manquer l'homme qui se respecte et qui t'aime ? Delphine, pardonne-moi de ne rien concevoir, de ne rien désirer de plus. Je n'ignore pas toutefois combien ce que mon caractère a de sombre, de susceptible, de violent, peut empoisonner les qualités que je crois bonnes en elles-mêmes. Ton empire sur moi modifiera mes défauts, mais il ne pourrait changer entièrement leur nature. J'ai dû me justifier pour calmer tes inquiétudes. J'ai dû me justifier enfin pour me présenter à toi, si je le pouvais, avec plus d'avantage. L'opinion du monde entier, quelque prix que j'y attache, ne m'eût jamais inspiré tant d'ardeur pour ma défense. Lettre 17. Madame d'Artenat à Delphine. Paris, ce 6 février 1791. Pourquoi prolongez-vous votre séjour à la campagne, ma chère Delphine ? On s'étonne de vous voir quitter Paris au milieu de l'hiver, dans le moment même où vous vous étiez montrée d'une manière si brillante dans le monde. Quelques personnes commencent à dire tout bas que votre sentiment pour Léonce est l'unique cause de ce sacrifice. Vous avez tort de vous éloigner. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Votre grand moyen de succès, c'est la présence. Vous avez des manières si simples et si aimables qu'elles vous font pardonner tout votre éclat. Mais quand on ne vous voit plus, les amis se refroidissent, ce qui est dans la nature des amis, et les ennemis, au contraire, se raniment par l'espérance de réussir. Vous aviez entièrement réparé en 15 jours le tort que vous avez causé les propos tenus par M. de Serbellane, et tout à coup, vous cédez le terrain aux femmes envieuses et aux hommes qu'elles font parler. Vous me répondrez qu'on jouit mieux de ses sentiments à la campagne, etc. Le hasard et votre confiance m'ayant instruit de votre attachement pour Léonce, je devrais vous faire de la bonne morale sur le tort que vous avez de vous exposer ainsi à passer la moitié de votre vie seule avec lui. Mais je m'en fie au principe que je vous connais, et m'en tenant à mes avis purement mondains, je vous dirai que, même pour entretenir l'enthousiasme que vous aspirez à Léonce, il faut continuer à l'éblouir par vos succès. Il était amoureux à en devenir fou le soir que vous avez passé chez moi. Et quoique, sans doute, il vous vante le charme des conversations tête à tête, croyez-moi, quand il a entendu répéter à tout Paris que vous êtes charmante, qu'aucune femme ne peut vous être comparée, il rentre chez lui plus flatté d'être aimé de vous et par conséquent plus heureux. N'allez pas vous écrier qu'il n'y a rien de romanesque dans toute cette manière de voir. Il faut conduire avec sagesse le bonheur du sentiment comme tout autre bonheur. Et pour conserver le plus longtemps possible le plaisir toujours dangereux d'être adoré, la raison même est encore nécessaire. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de ce qui vaut le mieux pour être aimé. Vous vous y entendez assez bien pour n'avoir pas besoin de mes conseils. Mais ce qui importe, c'est votre existence dans le monde. Et le murmure qui précède l'attaque s'est déjà fait entendre depuis quelques jours. Avant-hier, Madame de Croisy, qui jusqu'à présent avait mis son amour-propre à vous admirer, disait avec une voix aiguë qu'elle monte toujours d'une octave pour les discours de sentiment. « Mon Dieu, que je suis fâchée que Madame d'Albémar s'établisse à Bellerive. Personne ne sait mieux que moi que c'est son goût pour l'étude qui l'a fixé dans la retraite. Mais on dira tout autre chose, et il ne fallait pas s'y exposer. » Cette maligne preuve de l'intérêt de Madame de Croisy fut le premier signal du mal qu'on essaya de dire de vous. Monsieur de Verneuil, qui a tant de peine à pardonner à votre esprit, à vos charmes et à votre bonté, reprit. C'est une excellente personne que Madame d'Albémar, mais j'ai peur qu'elle n'ait une mauvaise tête. Ces femmes d'esprit, je l'ai répété 50 fois à ma pauvre sœur quand elle vivait, il leur arrive toujours quelque malheur. J'en ai plusieurs exemples dans ma famille. Aussi me suis-je vouée au bon sens. Personne ne dit que j'ai de l'esprit parce que je ne veux pas qu'on le dise. Et cependant, quelle différence entre un homme et une femme ? Il y a des occasions où il peut être utile à un homme de montrer à ceux qui en sont dupes ce qu'on appelle de l'esprit. Mais une femme, ah mon Dieu, il ne lui sert qu'à faire des sottises. Quand je dis cela, ce n'est pas que je n'aime pas Madame d'Albémar, mais je m'attends à quelque éclat fâcheux pour son repos. Sa conversation, quant à moi, m'amuse toujours beaucoup. Néanmoins, il ne serait pas sage de s'attacher à elle, car je suis persuadée qu'un jour ou l'autre, il lui arrivera quelque peine, et je n'ai pas envie de me trouver là pour les partager. Madame de Thézin, dont vous connaissez la double prétention à la sagesse et à l'esprit, interrompit Monsieur de Verneuil et lui dit « Ce n'est point, monsieur, l'esprit qu'il faut blâmer. On connaît des personnes qui peuvent hardiment se comparer à Madame d'Albémar sous ce rapport, mais qui ont beaucoup plus de connaissances du monde et d'habitude de se conduire. Ces personnes ne se contentent pas de briller dans un salon et se servent de leur lumière pour éviter toutes les occasions de faire dire du mal d'elles. Distinguez donc, je vous en prie, monsieur, les torts de légèreté de Madame d'Albémar des inconvénients de l'esprit en général. L'esprit est ce qui distingue éminemment les femmes citées pour leurs raisons. » Je me préparais à exciter une dispute sur ce sujet entre Madame de Thézin et Monsieur de Verneuil, lorsque Madame du Marsay et Monsieur de Fierville, prévoyant mon intention, cherchèrent à ramener la conversation sur vous et le firent avec une adresse vraiment perfide. Je voulais éviter même de vous défendre parce que je sentais que c'était constaté que vous aviez été attaqué. Mais il fallut enfin arrêter leur discours. J'eus au moins le bonheur de persuader entièrement ceux qui nous écoutaient. Ce qui me le prouva, c'est que Monsieur de Fierville, qui donne toujours à Madame du Marsay le signal de la retraite, parce qu'il a beaucoup moins d'amertume et de persistance dans ses méchancetés, se hâta de se replier en vous donnant les plus grands éloges. J'aurais pu lui faire sentir combien il y avait de contraste entre le commencement de sa conversation et la fin. Mais je ne voulais pas intéresser son amour-propre à se montrer conséquent. J'ai remarqué plusieurs fois dans la société que l'on fait beaucoup de mal à ses amis, même en les justifiant, quand on irrite l'amour-propre de ceux qui les ont attaqués. Il faut encore plus veiller sur soi quand on loue que quand on blâme. Si l'on veut se faire honneur en défendant ses amis, si l'on cherche à faire remarquer son caractère, en vantant le leur, on leur nuit au lieu de les servir. Je croyais avant-hier que tout était fini. Mais hier, Madame du Marsay, je suis sûre que c'est elle, a mis en avant une femme tout insignifiante mais dont elle dispose, et s'en est servie pour parler contre vous, tandis qu'elle-même, Madame du Marsay, n'aurait pas été écoutée. Cette femme, donc, après un long soupir, s'est écriée tout à coup. « La pauvre Madame de Mondeville !» On lui a demandé la raison de sa pitié. Elle a répondu qu'elle la croyait bien malheureuse du sentiment que Léon avait pour vous. À l'instant, monsieur de Fierville, que vous connaissez pour l'homme le plus insouciant de la terre, a pris un air de compunction vraiment risible. Madame du Marsay a levé les yeux au ciel, espérant donner ainsi à sa figure un air de bonté. Et ce qu'il y avait dans la chambre de plus frivole et de moins scrupuleux, s'est empressé de débiter des maximes sévères sur les ménagements que vous deviez à Madame de Mondeville. Quand la société de Paris se met à vouloir se montrer morale contre quelqu'un, c'est alors surtout qu'elle est redoutable. La plupart des personnes qui composent cette société sont en général très indulgentes pour leur propre conduite, et souvent même aussi pour celle des autres, lorsqu'elles n'ont pas intérêt à la blâmer. Mais si par malheur il les convient de saisir le côté sévère de la question, elles ne tarissent plus sur les devoirs et les principes, et vont beaucoup plus loin en rigueur que les femmes véritablement austères, résolues à se diriger elles-mêmes d'après ce qu'elles disent sur les autres. Les développements de vertu qui servent à la jalousie ou à la malveillance sont le sujet de rhétorique sur lesquels les libertins et les coquettes font le plus de pathos dans de certaines occasions. Je les supportais quelque temps, mais enfin, appuyé de plusieurs de vos amis, je démontrai ce que je sais positivement. C'est que Madame de Mondeville est très heureuse, et les mauvaises intentions furent encore déjouées. Mais dans ce genre, plusieurs victoires valent une défaite. Je vous en conjure donc, ma chère Delphine, revenez à Paris, et montrez-vous, afin d'étouffer ces haines obscures, par l'admiration que vous faites éprouver à tous ceux qui vous voient. Au milieu des plus brillantes sociétés, il y a beaucoup de personnes impartiales qui se laissent aller tout simplement à leurs impressions, sans les soumettre ni à leurs prétentions ni à celles des autres. Ce grand nombre, car le grand nombre est bon, sera pour vous. Mais ces mêmes gens, la plupart faibles et indifférents, laissent dire les méchants quand vous n'êtes pas là pour leur en imposer. Ils ne les écoutent pas d'abord, ils sont ensuite quelque temps sans les croire, mais ils finissent par se persuader que tout le monde dit du mal de vous et se rangent alors à l'avis qu'ils supposent général et qu'ils ont rendu tel sans l'avoir un moment sincèrement partagé. Cette histoire des progrès de la calomnie pourrait s'appliquer aux plus grands intérêts publics comme aux détails de la société privée. Mais puisqu'elle nous est connue, tâchons de nous en garantir. Je finis en vous priant de nouveau, ma chère Delphine, d'en croire mes vieux conseils. Ils sont inspirés par une amitié digne d'être jeune, car elle est vive et dévouée.